Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes sur Radio Alliance Plus, vous écoutez l'émission Votre santé, un trésor, produite et animée par le docteur Jacques Jaume. L'émission d'aujourd'hui est la première d'une de sous-émissions que j'aimerais appeler la médecine et les soins animes. J'aimerais évoquer l'histoire récente de la médecine et des soins dans notre ville de Nîmes. Nous recevons aujourd'hui, avec une immense joie, Mariette Guters. Mariette Guters est la fille, la cadette des 5 enfants qu'ont eu Madame Guters, que son mari appelait Vivette, et le docteur Robert Guters. Mariette Guters est née à Nîmes, dans la maison Guters, au centre-ville, que j'ai bien connue. Sa maman étant accouchée par son époux. Et oui, le docteur Guters était médecin accoucheur à Nîmes et a mis au monde un nombre incalculable de bébés. J'ai bien connu Robert Guters et son épouse grâce à Eliane Ferragut, qui a été une de mes formatrices en sophrologie avant d'obtenir mon diplôme d'algologie, la médecine de la douleur et de sophrologie. C'est la sophrologie qui nous a rapprochés, Robert Guters et moi. Il avait été dans cette discipline un précurseur. J'ai beaucoup pensé à Robert Guters dans la magnifique ville de Prague, sous la neige, où il a étudié lors d'un récent voyage que j'ai fait. Merci à vous et bonjour, Mariette Guters.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous avez écrit un livre sur la vie de votre père, édité chez L'Harmattan, l'édition L'Harmattan, dans la collection Histoire de vie et formation. Remarquons que cette édition propose aux auteurs de s'exprimer dans beaucoup de domaines. Vous avez réalisé aussi un documentaire sur votre père que l'on peut regarder sur YouTube. Je ne sais pas si tu peux comprendre un film de Mariette Guters. Je vous en donne le lien. https://vimeo.com/12910-3638 que vous pourrez reprendre dans les podcasts. Pourquoi un film et un livre sur la vie de votre père ?
Alors, en fait, au départ, avant le livre, il y a eu le film. Et moi, mon métier de monteuse de films documentaires m'a souvent amené à travailler au montage sur des portraits. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai regardé la vie de mon père, j'ai dit, voilà un beau portrait et un témoignage qui serait très important.
Donc vous avez monté le film, donc on peut voir votre père qui vous parle, qui se raconte.
Oui.
Donc il a vu ce film.
Alors, on en a parlé, hein, parce D'accord. que c'était un projet. Et lui, ce qui était très important pour lui, c'était de témoigner de son vivant.
Voilà, son vivant. Donc il a vu le film, vous avez écrit voilà. le livre, il a lu le livre.
Oui, bien sûr.
Très bien. La vie de votre père peut être divisée en plusieurs parties. De sa naissance en Tchécoslovaquie, qui faisait suite à l'Empire austro-hongrois, à son départ pour la France, vers Montpellier, pour fuir le nazisme. Sa vie d'étudiant en médecine, la rencontre avec votre maman et le maquis dans le sud de la France. Son installation en médecine générale à Valorogue, puis à Nîmes, sa passion pour l'accouchement, c'était une vraie passion, puis malheureusement la perte effroyable pour lui de son épouse et la fin de sa retraite. Parlez-nous de cette vie hors du commun dont j'ai été témoin durant sa fin.
Oui. Alors je voulais rectifier, mon père est né en Roumanie en fait, ah. pas en Tchécoslovaquie. Mais bon, c'était effectivement, il y a eu le partage de l'Empire austro-hongrois et il s'est retrouvé dans une région qui était la Bucovine, qui a été ensuite, qui est devenue la Roumanie.
Ouais, d'accord.
Voilà. Donc,
une précision oui. importante à donner.
Oui, oui. Et ensuite, comme dans cette ville, il n'y avait pas d'université de médecine. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Prague pour ses études médicales.
Voilà, parce que son projet de vie, c'était la médecine.
Depuis toujours, oui. Il a eu une vocation qui s'est révélée, parce que très jeune, à 16 ans, il a dû accompagner son père.
Voilà, c'est une preuve pour lui. En deux mots, il accompagne son père, oui. et son père meurt dans ses bras, délaissé par les médecins. Moi, je me rappelle,
Exactement,
il m'a raconté.
Oui, oui.
Il a été à la salle d'internat où j'ai appelé les médecins, il dit on va attendre, et son père est mort dans ses bras. Donc, ça, c'est une épreuve qui a beaucoup marqué.
Et il a dit textuellement, pour moi, j'ai voulu changer la médecine. Quand j'ai vu ça, j'ai
donc,
dit...
Donc, on sentait qu'il avait une éthique, un engagement en médecine, qu'il était un vrai médecin, il voulait vraiment apporter quelque chose.
Oui, la vraie médecine, hein, disait-il.
Donc, après, il est venu sur Montpellier, avec les événements de la guerre, il a continué sa médecine. Donc, tout ça est bien raconté dans le livre. Il a fait sa médecine à Montpellier, il a eu son diplôme.
Oui.
Il a été dans le maquis.
Bon, ça a été interrompu, évidemment. Parce qu'il était d'origine juive, hein, donc oui. il a été caché par ma mère.
Oui, il y a toute une...
Et donc, il a débuté sa médecine, après il l'a arrêté. Il l'a reprise à Montpellier à la fin de la guerre.
Voilà. Il faut lire le livre pour voir un peu ce que pouvait être la vie de réfugiés juifs étrangers. Et donc, c'est quand même intéressant parce que c'est du vécu, donc ça, c'est quand même intéressant.
Oui, toute cette période justement où il était résistant. Comme il parlait allemand, les résistants l'avaient employé. Il avait un double jeu à la mairie de Montpellier, donc il a risqué beaucoup sa vie à cette époque-là.
Et après, il était obligé de partir dans le maquis. Voilà, et là, il a commencé à soigner.
Il a rejoint le maquis FTP, le Lot.
Et donc après, il s'installe. Il faut bien vivre. Il se marie avec votre maman, qui s'appelle Vivette.
Oui.
Et ils vont à Vallorogue.
Voilà. Enfin, bon, il a eu quelques expériences avant, mais il s'installe comme médecin de campagne à Vallorogue.
Alors, je me rappelle une chose, c'est qu'il est intéressé par la technique. Il achète un des premiers instruments de radioscopie et il monte sur ses épaules l'instrument pour faire les radioscopies. C'est pas graphie, hein, il n'y avait pas de document, chez les gens.
Oui.
Là, il en était très fier.
Oui, bien sûr. Et il avait même créé une première clinique d'accouchement de deux lits dans une villa à Vallorogue.
Mais j'ai connu des confrères, des praticiens anciens qui dans leur maison, avaient deux, trois lits reconnus où ils suivaient des patients et ils prenaient des patients en soins. Donc, après, il s'est tourné vers l'accouchement et il était passionné par l'accouchement sans douleur.
Oui.
Hein. Donc ça a été un des fondateurs.
Voilà.
Et on reviendra un peu sur plus de choses. Puis, dans les questions que j'avais prévu de vous demander, je ne l'ai pas abordé, mais vous avez une fratrie, vous êtes une fratrie de 5 enfants.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire les prénoms et les âges et le...
Oui, donc je commencerai par, malheureusement, mes deux frères et sœurs qui ont disparu, hein, Dominique Guters, qui était né en...
Dominique, tous les Nîmois connaissent, c'est le peintre. Hein.
Voilà, le peintre qui a été directeur des Beaux-Arts aussi.
Ouais, qui a beaucoup peint votre maman.
Alors, beaucoup, beaucoup, oui.
Beaucoup peint. Il faut voir son œuvre pour voir...
Voilà.
Et le deuxième.
Alors, deuxième, c'est ma sœur Anne.
Oui, que j'ai bien connue.
Voilà, donc qui vit actuellement à côté de Lyon.
Qui est la mémoire de la famille.
Et qui a la mémoire de la famille aussi au niveau médical, puisqu'elle a beaucoup travaillé avec mon père. Voilà. Elle était dans le comité d'éducation pour la santé. Elle a même été avant, à la préparation à l'accouchement, par la sophrologie. Voilà. Et donc,
le troisième,
Xavier Guters. Donc Xavier, qui est archéologue.
C'est un érudit. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Voilà. Et c'est un archéologue.
Voilà. Et qui a fait
une sommité dans l'archéologie.
Voilà. Qui a fait une grande découverte qu'on appelle le Lascaux africain.
Ah,
Voilà, du côté de Djibouti,
Très bien.
Somaliland, oui.
Puis après ?
Alors après, qui est disparu, malheureusement, ma sœur Agnès.
Hein, oui.
Qui, elle, a travaillé dans l'édition, qui vivait à Nantes ces dernières années.
Et donc, réalisatrice. Moi, alors, faites la différence entre document et...
Je fais une différence entre documentaire et reportage. Reportage, c'est fait par un journaliste, et un documentaire d'auteur, c'est fait par, comme moi, une autrice. J'écris les projets, et réalisatrice, je réalise.
Donc, vous réalisez des documents, et puis vous écrivez.
Et voilà, et j'écris aussi, j'écris des biographies, et j'ai donc écrit, la première biographie que j'ai écrite, c'est celle de mon père finalement, et j'ai continué ensuite.
Alors on peut vous contacter pour écrire des biographies.
Voilà, tout à fait, oui.
Très bien, je vous propose une petite pause musicale avec un extrait de la Moldo, d'un compositeur tchèque, Bedřich Smeta, compositeur tchèque en hommage au docteur Guters. Robert Guters n'était pas tchèque, mais hongrois, mais a été étudiant à Prague en médecine, où j'ai beaucoup pensé à lui. Thank you. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Alliance Plus au 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui Mariette Guters, c'est la fille du docteur Robert Guters. Alors, dans la présentation, j'ai dit que Robert Guters était hongrois, mais je me suis trompé. Alors, racontez-nous où exactement est né votre papa.
Alors, mon père est né en 1918 en Roumanie, dans la ville de Tchernovitz, dans une région appelée la Bucovine, qui est devenue roumaine au moment du partage de l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire l'année de sa naissance, en fait. Et donc, sa famille faisait partie de la bourgeoisie juive assimilée autrichienne, hein, de langue allemande. Mmh. Alors, je peux raconter un peu plus sur cette ville, qui est vraiment qu'on appelait la Petite Vienne. Hein. C'était une population à majorité juive, où vivaient en harmonie polonais, autrichiens, ukrainiens et quelques roumains. Hein. Et donc, c'était la patrie du poète Paul Celan. Hein. Quand la ville est devenue roumaine, l'année de la naissance de mon père, donc l'antisémitisme s'est installé progressivement jusqu'à l'arrivée du nazisme, puisque les Roumains étaient alliés nazis. Et aujourd'hui, cette ville qui s'appelle Tchernivtsi, elle est en Ukraine.
Hein. En Ukraine, voilà. Donc qui est encore frappée malheureusement par une guerre.
Exactement.
Votre père était étudiant en médecine, puis il a été médecin généraliste. Et jusqu'à sa retraite, il était médecin accoucheur. Alors, il faut peut-être expliquer. Maintenant, les médecins accoucheurs sont gynécologues, obstétriciens. Mais à l'époque, n'importe quel médecin généraliste, c'était mon cas, pouvait faire des accouchements. Donc, moi, de mon époque, on ne le faisait pas à domicile, mais lui, il faisait des accouchements à domicile, et puis il a créé une clinique d'accouchement. Mais lui, il était médecin généraliste, mais il avait une spécificité, une compétence, c'était l'accouchement. Pouvez-vous nous en parler et nous décrire les différentes étapes de sa carrière médicale?
Oui, c'est-à-dire qu'il a été longtemps généraliste et faisant les accouchements. Et à un moment donné, il a quand même il a pris la spécialité d'obstétrique. Hein.
Voilà.
Mais à un moment donné, c'était compliqué, les accouchements à domicile. Et en fait, il a voulu créer une clinique parce qu'il accouchait dans différents endroits.
Oui. Voilà. Différentes cliniques de la...
Voilà, qu'il avait accepté ou pas. Hein. Parfois, ouais. on le rejetait parce que c'était cette méthode, ça n'intéressait pas les directeurs de clinique.
Il a mis au point la méthode accouchement sans douleur.
Et donc, à un moment donné, oui, cette méthode d'accouchement sans douleur, hein, qui avait été initiée en France par le docteur Lamaze,
oui.
Donc, il était allé se former hein, auprès du docteur Lamaze, lui et puis son équipe, hein, avec les sages-femmes qui étaient très
importantes. Déjà, il travaillait en pluridisciplinaire.
Oui, il y avait un kiné, il y avait des sages-femmes, voilà.
Qui n'existaient pas à l'époque. Hein.
Et donc, ils se sont tous formés. Et à un moment donné, il a réussi à ouvrir sa clinique. Il a appelé la clinique des Bleuets. Hein,
qui était en mémoire.
En mémoire de la clinique des Métallos de la Seine de...
Voilà.
De la clinique...
Voilà, alors une petite précision voilà. Technique médicale, c'est vrai qu'il était accoucheur, mais il n'opérait pas. C'est-à-dire que quand il y avait une césarienne à faire, il me disait qu'il travaillait avec... Il me nommait les chirurgiens avec qui il travaillait, donc il appelait les chirurgiens pour donc, les actes chirurgicaux.
Il travaillait avec le docteur Cabanette.
Voilà, alors que... Alors, le docteur Cabanette a été mon patron quand j'étais en troisième année de médecine, était chef de service d'orthopédie au CHU de Nîmes, et j'en profite pour saluer ses enfants, que je connais bien, donc sa fille qui m'a appris beaucoup en psychiatrie, et travailler notamment avec lui pour les actes chirurgicaux. Alors Robert Guttart n'était pas uniquement praticien. Il s'est investi dans beaucoup de domaines, nous allons en oublier certainement. L'accouchement sans douleur, le boyer naissant sans violence aussi, qui est une autre méthode, l'aptonomie de Franz Wellmann, la sophrologie. Il travaillait dans le centre de planification en 1914 avec une équipe pluridisciplinaire, avec notamment le docteur Gérard Anfoux, qui était mon maître en psychiatrie, avec qui j'ai réalisé ma thèse sur l'hypnose. Il a donné des cours à l'école d'infirmières. Il a été président du comité départemental d'éducation pour la santé. C'est à partir de 1977, avec ensuite le Forum Santé, qu'il aborda notamment l'éducation sexuelle. Il en était le président. Lorsqu'il passe le relais au docteur Rouy, à sa demande, j'en ai été le secrétaire général. J'étais alors vraiment un tout jeune médecin. Il a travaillé sur la nutrition, le tabagisme, l'alcoolisme, la vie domestique et ses dangers, et bien sûr les soins palliatifs, il était un précurseur et nous avions ce même intérêt. Il a rencontré Françoise Dolto, qui est venue à Nîmes, chez vous, chez lui, chez votre maman, chez lui, qu'il admirait, dont il m'a beaucoup parlé, et l'idée de créer à Nîmes, il a eu l'idée de créer à Nîmes la maison des Mistons, lieu de parole et d'écoute parents et enfants. Alors, chose curieuse qu'il faut souligner, étonnant d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait des cours d'information sexuelle lorsque j'ai été au collège Antoine Migaud à Nîmes. Vous souvenez-vous de ce père novateur en médecine ?
Oui, tout à fait. Voilà, en fait, il était, lui, c'était toujours cette vocation de médecin humaniste. Hein. Il était à l'affût de tout ce qui pouvait apporter le confort aux femmes, hein, les soulager. Et donc, en fait, il était vraiment beaucoup à l'écoute. Hein.
Ouais, alors... Moi, j'en ai le souvenir d'un homme avec une grande gentillesse, d'un abord extrêmement facile. Bon, il m'a beaucoup aidé, beaucoup avec votre maman. Et puis, c'est vrai qu'il était omnubilé par la passion de l'accouchement et de ce magique de l'accouchement et d'avoir un bébé, une dame qui accouche. C'était transcendant pour lui. Et il le passait. Moi, il m'a fait passer des moments extraordinaires en me racontant des péripéties à la clinique. En fait, je veux dire, c'était extraordinaire. Il n'arrêtait pas de travailler. Et donc vous partiez, je le sais, en vacances à la mer. Lui, il restait dormir à la clinique et continuait ses accouchements.
Hein? Et d'ailleurs, jusque après, pendant sa retraite, quand on a fait le film, il me demandait toujours, bon, quand est-ce qu'on fait l'accouchement? Quand est-ce qu'on fait l'accouchement? Parce que toute la partie avant sur sa vie, il dit, je le fais pour toi, mais... Lui, il voulait parler de ça.
Oui, il parlait beaucoup plus de l'accouchement, de sa pratique, de l'ambiance de Nîmes, des relations dans le monde médical de l'époque. Il était plus prude sur sa vie. J'ai eu l'occasion j'ai des détails que j'ai oubliés, comme exactement les origines de sa naissance, mais il était quand même plus prude en ce qui concernait sa vie passée. Il était un peu plus crispé quand il en parlait, mais il en parlait quand même. Mais quand même, c'était sa pratique qui l'enchantait.
Ouais.
Oui, pardon.
En fait, novateur, pour moi, c'est important ce mot parce qu'il a suivi, il a évolué. Il est passé de il y a toujours l'accouchement sans douleur.
Oui, l'accouchement simple et une méthode.
Voilà, les méthodes, hein, toutes les méthodes que vous avez citées. Et pour la sophrologie, hein, il s'est formé aussi. Hein, ma sœur Anne l'a accompagné dans cette formation.
Et Eliane Ferragut, qui m'a formé à Montpellier, était en relation et avait été formée par votre papa.
Exactement.
Pouvez-vous nous dire, Marianne Guterres, nous évoquer son parcours politique, c'est important pour lui, et sa nomination comme chevalier de la Légion d'honneur?
Oui, alors, je dirais que mon père et ma mère, d'ailleurs, c'était des gens de gauche. Hein.
Oui, ça, ils étaient de gauche.
Voilà, lui, il avait démarré son engagement dans le maquis communiste FTP. Hein. Donc, et ensuite, il était devenu membre du PS pendant de très longues années. Et il avait soutenu Alain Clary, hein, quand il a été élu maire de Nîmes en 95, hein, sur la liste d'Union de la gauche.
D'ailleurs, je vous coupe 30 secondes pour témoigner que lors de son enterrement à la cathédrale, la cathédrale était absolument pleine, c'était impressionnant.
Oui. Et donc, en fait, les dernières années de sa vie, il était revenu vers le Parti communiste, finalement. Et alors, finalement, l'engagement...
On ne cherche pas des idées qui gagnent.
L'engagement politique, elle est vraiment liée à son combat, hein, pour l'accouchement sans douleur et les conditions de grossesse et d'accouchement, hein, pour les femmes, oui, en France. Parce qu'en 81, c'était le gouvernement Mitterrand. À l'époque, Georgina Dufoy était secrétaire d'État à la famille. Oui. Hein. Elle lui avait demandé de rédiger un rapport de 70 propositions, oui, pour l'amélioration de la vie de la femme enceinte et de l'enfant. Et c'est là qu'il y avait des articles qui sont passés, hein, carte de priorité et l'allongement du congé paternité.
Oui, il était un géniteur.
Et c'est assez, c'était à l'origine. Ah, oui. Et depuis, on a vu que ce congé paternité, régulièrement, il est allongé. Mais au départ, il était allongé de pas beaucoup. Mais ça a pris des années pour que ça progresse.
Bien sûr. Hein, bien sûr.
Et donc, c'est à cette occasion, hein, et pour tout son travail novateur, qu'il s'est vu décerner la Légion d'honneur, en fait, en 1988.
Oui, mais c'est un novateur médical, mais c'est surtout, moi, ce que j'ai ressenti, et ce qui m'a appris aussi, c'est un novateur social. C'est-à-dire qu'il faisait de la médecine sociale avant l'heure, ça n'existait pas trop, et il a continué. Moi, j'ai été extrêmement intéressé par ça, notamment au niveau du Comité d'éducation pour la santé. C'est un travail extraordinaire. Eh bien, il nous reste infiniment à vous remercier, Marianne Guterres, pour l'évocation de votre papa et votre travail d'écriture et de réalisation de ce film, hein, sur sa vie et son œuvre. Encore merci à vous.
Et merci beaucoup à vous.
Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui. Je ne cite très bien évidemment que le livre de Marianne Guterres. Je ne suis pas guéri de la médecine, d'après le récit de Robert Guterres, que vous pouvez vous procurer aux éditions Lamartin ou dans toutes les bonnes librairies. Ce livre est un hommage d'une fille à son père, bien évidemment, mais il est bien plus. Ce livre est un récit d'une vie d'un homme déchiré par une appartenance dès sa naissance, le terrible deuil d'avoir vu son père mourir dans ses bras en étant délaissé et abandonné par des médecins. Un homme qui a été obligé de fuir la barbarie, de se reconstruire, d'épouser une femme qu'il a aimée jusqu'à la fin et qui épousera aussi la médecine. C'est aussi un livre qui nous raconte une médecine où l'humain était considéré comme central, une médecine qui semble aujourd'hui disparaître peu à peu. Il est le témoignage sur une époque dont j'ai pu ressentir le rayonnement, où les médecins étaient tout aussi connaissants, techniciens, qu'humains et humanistes, et s'investissaient dans la cité et le social, ne limitant pas leur action dans un nombrilisme de pratiques en cabinet ou dans une institution. Beaucoup m'ont appris et m'ont enseigné, mais je n'ai pas été certainement à la hauteur de leur enseignement et de leur message. Ils ont été pour moi des maîtres, et Robert Guterres en a été un. Il m'a beaucoup donné, appris et fait confiance. Je ne l'ai pas assez remercié, et je ne le remercierai jamais assez. C'est pour cela qu'en présence de votre écoute et de sa fille, qui représente sa famille, j'ose dire merci, Monsieur Guterres, et merci à vous, chers confrères et amis, comme il aimait m'appeler. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé, un trésor, sur Radio Alliance Plus, au 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.
Vous écoutez Alliance Plus à Nîmes.